Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, au sommaire ce soir, l'Amérique et son mythe depuis plus de 4 ans et après sa réélection, nous allons passer au scanner la politique américaine du président Obama. Ce soir, pour m'accompagner, Pascal Essérick, le rédacteur en chef de la revue Élément. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Notre deuxième partie, excusez-nous, mais sur l'actualité européenne, est annulée étant donné l'absence de notre ami Philippe Christelle, qui avait un empêchement, je ne sais pas quoi, un voyage à l'étranger, peut-être une mission secrète, je ne sais pas. Mais nous le retrouverons l'année prochaine, rassurez-vous, chers auditeurs. Donc, pour cette première partie, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Imarijon. Bonsoir Jean-Philippe Imarijon.
Bonsoir.
On vous avait déjà reçu pour votre ouvrage pour en finir avec la France-Amérique. Et nous allons avoir par téléphone John MacArthur, le directeur de Harper's Magazine, qui vient de publier il y a à peine quelques mois, l'illusion d'Obama aux éditions Les Arènes. Alors, on va essayer avec la technique de savoir, on va l'avoir d'ici quelques minutes. Jean-Philippe Imarijon, alors avant d'avoir John MacArthur, vous êtes surpris par la réélection d'Obama ou c'était prévisible ?
Non, pas très surpris. De toute façon, il a tout fait pour être élu. Bon, en démocratie, on ne connaît jamais le résultat à l'avance. De toute façon, il a été réélu sur essentiellement des questions de politique intérieure. Question politique étrangère, au bout de 4 ans, finalement, il est revenu à un bouchisme de bon aloi, guerre, Guantanamo qui, finalement, est toujours ouvert.
Toujours ouvert, hein.
D'ailleurs, il suffisait de lire, de l'écouter, même au moment de son élection, et surtout de lire l'executive order, ce qu'il a signé le lendemain de son intronisation, pour comprendre que malgré la belle promesse, Guantanamo ne serait pas fermé. Une attitude sur les questions méditerranéennes qui n'a absolument pas varié d'un iota par rapport à la politique américaine telle qu'elle est de toute façon. Un discours du Caire qui en soi ne voulait rien dire mais qui effectivement n'a pas eu de suite. Et puis un alignement inconditionnel. Alors on en reparlera avec Rick, avec John MacArthur sans doute. Faut pas oublier en politique internationale, en Méditerranée, il y a l'alliance israélienne, mais il y a aussi l'alliance saoudienne. C'est très important. Et de toute façon, les deux souvent poussent dans le même sens. Et la politique américaine, on le voit, fonctionne au coup par coup et surtout veut éviter tout chambardement en Méditerranée. Bon, on pourrait aligner, on va le faire, beaucoup de choses. Donc, des promesses interne de reprise parce qu'effectivement le programme de Romney était un programme de retour avec son aile droite, le Tea Party, un ultralibéralisme auquel plus personne ne croit. Enfin, l'erreur, il y avait un article dans Le Monde, je crois il y a 3 jours, l'erreur aussi a été en France de l'UMP de droitiser le discours, enfin de droitiser, de l'ultralibéraliser. Ça, plus personne n'y croit depuis la crise de 2007. Donc une politique économique sur laquelle il a réussi à convaincre les Américains, une politique étrangère qui n'a pas changé. Avec ça, vous êtes réélu, je pense, du moins.
Donc on va, je pense, d'ici quelques minutes, avoir John MacArthur. Sur la politique internationale, on a quand même l'impression que... On l'a vu par exemple sur le Moyen-Orient, que parfois on les a traités un peu d'amateurs, de naïfs, alors que autour de lui, il a toute l'ancienne équipe de Clinton.
Non, les Américains ne sont pas des amateurs et des naïfs, des idéologues. Donc par moments, il y a de grandes embardées. Enfin, ce qui est pour nous de grandes embardées, c'est l'idéologie, c'est l'idée qui prime sur le réel. Mais ce n'est pas des amateurs. Il y a quand même depuis 60 ans, 70 ans, une constante dans la politique américaine. Alors des constantes selon la région. En ce qui concerne l'Orient, c'est le grand jeu du pétrole. Alors ça, on va peut-être en parler, ça va changer avec le gaz
du... Je crois que John MacArthur est en ligne.
On va le saluer. Et puis l'alliance israélienne, qui date de 67, en fait, qui date du lâchage d'Israël par la France. Et les Américains se sont mis là. Et bon, il y a quand même des constantes. Donc, ça peut paraître... il peut y avoir des actions au coup par coup, mais derrière, la politique américaine, elle reste toujours la même.
John MacArthur, est-ce que vous m'entendez? Ah,
Je peux... Allô, allô ?
Oui, allô, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio Courtoisie. Alors, nous sommes dans le studio avec Jean-Philippe Imarijon. Et vous venez de sortir, je crois que c'est au mois de septembre, hein, L'illusion Obama aux éditions Les Arènes. Alors, votre livre est un recueil d'articles sur l'Amérique et plus précisément sur la présidence d'Obama depuis 2008. Et vous commenciez par dire que l'Amérique, dans l'un de vos premiers articles, refusait de voir la vérité à propos de la crise. Est-ce que c'est toujours le cas ou l'Amérique a changé ?
Refuser de voir la vérité au sujet de la crise ?
Oui.
La crise économique.
Oui, non ? La crise économique.
Donc, il y a quand même, il y a aussi une crise dans la politique étrangère des États-Unis dont on pourra parler.
Oui, oui, on va en parler aussi.
Oui, oui, mais pour la chute financière de 2008, ça suit une période de déréglementation de l'économie américaine qui a commencé avec Ronald Reagan, mais qui a été accélérée par le démocrate, le soi-disant démocrate Bill Clinton. Et nous avons notamment abrogé la loi Glass-Steagall, par exemple, qui avait séparé les fonctions des banques commerciales et les banques d'affaires. Et voilà que Barack Obama a présenté avec un tabula rasa et il refuse de faire quoi que ce soit comme réforme sérieuse. Il y a même eu un projet de loi proposé par John McCain, son ancien rival, et une sénatrice de gauche, Maria Cantwell, pour restaurer Glass-Steagall, cette loi qui a été promulguée lors du premier mandat de Franklin Roosevelt. Et Obama l'a notamment ignoré. Et c'est uniquement parce que le Parti démocrate s'est vendu, il y a à peu près 10 ans ou 15 ans, à Wall Street et aux grandes entreprises pour mieux faire concurrence avec le Parti républicain et récolter plus d'argent pour leur campagne électorale.
Alors,
mais pour moi, ça n'a jamais été une surprise ou une déception parce que du sort Barack Obama.
Oui.
Pascal Essérick.
Voilà, oui, à lire ces chroniques qui s'étalent dans le temps, du 15 octobre 2008 jusqu'au 18 janvier 2012, on est frappé, et vous venez de le dire d'ailleurs, par la constance de votre jugement. La belle histoire de Barack Obama est une fable, et vous écrivez que c'est un produit verrouillé, le produit d'un système verrouillé et non pas le libérateur qu'il est considéré hors de nos frontières. Alors comment vous en êtes arrivé à cette conclusion
J'y suis arrivé par connaissance de ce milieu dont je parlais tout à l'heure, de Chicago. C'est le clientélisme, c'est l'archi-clientélisme, et je dis souvent que c'est presque soviétique dans sa formation. C'est l'oligarchie, disons, et c'est la dominance à 100% d'un seul parti politique qui n'a aucun intérêt dans la réforme. On veut faire le contraire. C'est l'antithèse de la réforme. Donc, de prétendre qu'un candidat lancé par la machine politique de Chicago pourrait faire quoi que ce soit comme réforme politique, c'est presque une absurdité. Mais à l'époque, les gens me disaient, voilà, il va survoler le système, c'est une nouvelle donne, il va complètement transformer l'Amérique, le visage métis, presque noir, etc. Ça, c'est le grand symbole du changement. Et moi, je disais, non, c'est le triomphe des apparatchiks de Chicago.
Oui, parce que... Oui, parce que vous expliquez dans votre livre que Obama fait partie de cette élite du pouvoir démocrate, dont l'ancien tout-puissant maire de Chicago, Richard Daley, a été son principal soutien. Alors, qui est Richard Daley, ou plutôt, qui sont les Daley qui sont une véritable famille de parrains à Chicago et qui tiennent une grande partie du parti démocrate?
C'est une famille qui est installée à Chicago depuis très très longtemps. Le père Richard Daley était maire. Il a commencé son premier mandat, je pense, en 1955, et il a fait, je ne sais pas, 4-5 mandats à l'hôtel de ville, et éventuellement il a été succédé par son fils Richard M. Parce que c'est un peu un système tribal, et il y a toujours des Irlandais catholiques qui dominent la vie politique de Chicago, et ils s'arrangent entre eux en faisant un peu ce que les Romains faisaient, c'est diviser et conquérir tous les intérêts ethniques. Et récompenser les amis et punir les ennemis. Et Barack Obama a notamment aidé la famille Daley à punir des ennemis. Et donc ils sont redevables à Obama. Alors quand c'est un type très ambitieux, quand il a voulu lancer sa campagne, les Daley ont simplement dit on va lancer les dés et on verra. Mais ils ont offert leur soutien à Obama très très tôt contre Hillary Clinton parce que finalement ça les arrangeait. Et ça n'avait rien à faire avec les espoirs des réformistes et des gauchistes et les gens un peu plus modérés, moins que gauchistes, qui ont soutenu sa candidature. Qui aurait voulu voir des réformes dans le système de lobby à Washington, un retrait de la guerre en Irak, et pas d'accélération de la guerre en Afghanistan, et des réformes notamment dans le secteur financier. Tout ça a été impossible dès le début. Parce que Obama avait joui du soutien des gens qu'on voulait réformer, qu'on voulait punir.
Parce qu'en gros, vous expliquez que Obama a été choisi par l'élite démocrate parce qu'il vient des mêmes écoles que l'élite blanche. Ils ont fait Harvard, le Collège Columbia.
Oui, tout à fait. Il était acceptable aux élites démocrates parce qu'il, oui, il est sorti du même milieu. Rappelez-vous que c'est le produit d'un foyer plutôt bourgeois dans le Hawaii. Il était dans une école privée. Et vous avez vu que tout de suite, au début de son mandat, il a mis ses enfants dans le privé. Pas question de les mettre dans le public. Donc, de prétendre encore que c'est un gauchiste parce qu'il avait fait 3 ans de travail chez les pauvres de Chicago, c'est encore un leurre.
Oui, d'ailleurs, il y a un passage dans votre livre, enfin, c'est même le début d'une chronique assez intéressante qui s'intitule « La déception du maire Daley ». Et vous écrivez ceci: les râles des militants du Tea Party et des fous furieux de Fox News qui croient Obama issu d'une secte marxiste et musulmane qui vise à détruire l'Amérique chrétienne sont d'une ironie paradoxale. C'est est-ce que vous pouvez nous expliquer cette ironie?
Je vais vous donner mon histoire chronologique. Il y a beaucoup de gens qui ont remarqué sur son fameux discours au Caire, où il a soi-disant offert aux Arabes, au monde musulman, une ouverture. Mais je vous fais rappeler encore qu'avant de se rendre au Caire, il s'est rendu à Riyad. pour faire ses hommages au roi Abdullah.
Oui,
pour démontrer que les États-Unis resteraient l'allié fidèle et que absolument rien n'allait changer. Mais personne n'a remarqué cette étape. Il était accompagné par un fidèle de la machine de Chicago, Rahm Emanuel, ami d'Israël. Mais finalement, l'Arabie Saoudite et l'Israël et Israël s'entendent très bien. Ils sont tous les deux contre l'Iran et ça arrange l'industrie pétrolière en Amérique qu'on reste sur le statu quo.
Alors, où était
l'idée de la réforme là? Le discours au Caire a été entièrement symbolique. Là, il s'est présenté comme l'allié de l'Arabie Saoudite, qui est finalement le pays arabe le plus réactionnaire du Proche-Orient.
John MacArthur, vous parliez tout à l'heure de Rahm Emanuel. L'auditeur français, même pour les journalistes français, il est peu connu. Ça a été le chef de cabinet d'Obama jusqu'en 2010, et ensuite il prendra par hasard la succession de Richard Daley à la mairie de Chicago. Alors il est israélien d'origine, il sera même mécanicien dans l'armée de Tsahal pendant la première guerre du Golfe. Il a été l'homme clé au moment de l'élection d'Obama. C'est un peu un faucon chez les démocrates, Rahm Emanuel.
Tout à fait. Il était pro-guerre, pro-invasion de l'Irak, loin d'être gauchiste. C'est un champion des récoltes de fonds, des soirées des récoltes de fonds. Et c'est un type plutôt intimidant qui menace les gens. C'est un type plutôt méchant. Mais il fait beaucoup de travail pour le parti, pour la machine démocrate. Il est récompensé avec de l'argent, avec des postes importants, chef de cabinet au début du premier mandat d'Obama. Et aujourd'hui, il est installé à l'hôtel de ville de Chicago comme maire. Il est le nouveau maire de Chicago. Donc lui, il se prépare pour un avenir brillant dans le Parti démocrate.
Alors, vous expliquez dans votre livre, ce qui paraît incroyable, que Rahm Emanuel, qui est effectivement un peu le ramasseur de dollars pour les campagnes électorales, il vend carrément aux riches donateurs des postes d'ambassadeurs. Alors, vous donnez même les tarifs. Paris-Londres en tête. Lou Sussman, ancien cadre de la Citigroup, aurait acheté son poste à Londres 239 000 dollars. Paris, c'est plus cher, c'est 500 000 dollars. C'est-à-dire que les grands donateurs vont avoir les futurs postes dans la diplomatie américaine.
Oh, tout à fait. Monsieur Rifkind, l'ambassadeur à Paris, je pense, est-ce que j'ai dit, il a dit 500, à peu près
500 000.
À moitié d'un million, 60, oui. Donc...
Ah. Ça a coupé. Je pense qu'on aura tout à l'heure, on va reprendre la discussion avec John MacArthur. Jean-Philippe et Marie-Jean, ce genre d'anecdote vous surprend pas? Ça marche comme ça, le système américain? Plus vous donnez, plus vous avez de possibilités de rentrer dans l'administration?
Oui. La vision qu'a Rick, enfin, on se connaît depuis 5 ans, c'est lui qui a préfacé d'ailleurs ma France-Amérique, ouais. Donc toutes ces chroniques qui sont publiés, enfin qui sont republiés, qui à l'origine sont publiés tous les mois dans Le Devoir, qui est le grand quotidien de Montréal. Soit dit en passant, Rick Tou, directeur de Harper's, je profite qu'il est hors ligne pour le dire, Rick Tou, directeur de Harper's qu'il soit, et membre de l'establishment entre guillemets, ne peut pas dire et écrire ce qu'il écrit chez les Français, y compris nos cousins du Québec, aux États-Unis. On pourrait discuter très longuement de la censure en Amérique.
On l'a repris en ligne.
Oui, il y a un passage sur ça. D'ailleurs.
Oui, justement, on était en train de discuter avec Jean-Philippe et Marie-Jean sur ces méthodes. Et je lui ai demandé, est-ce que ces méthodes de payer, en fait, il suffit de donations pour avoir les postes, c'est des choses courantes qu'on trouve?
Oui, ça a toujours été le cas chez nous, c'est on achète les postes d'ambassadeurs. Il y a beaucoup moins de professionnalisme dans le corps diplomatique américain qu'en France pour bien ou pour mal. C'est souvent la façon dont qu'on achète des postes d'ambassadeurs. C'est une course à l'argent Et c'est un peu la même chose dans, avec les postes, disons, politiques, où on choisit des sous-secrétaires et des secrétaires de cabinet encore pour remercier les gens qui ont donné le plus de fric.
Il y a maintenant quelques années est sorti en France un livre qui est passé un peu inaperçu, c'est L'État prédateur de l'économiste américain James Galbraith, qui expliquant que l'Amérique n'était plus un pays de libre-échange, mais que depuis Reagan à aujourd'hui, on a transformé les États-Unis en une sorte de république d'entreprise où l'économie est contrôlée par une coalition de puissants lobbies, c'est-à-dire que ce sont les grandes entreprises qui décideraient de la politique américaine. Est-ce que vous le ressentez, vous, en tant qu'Américain?
Oui, mais en tant qu'écrivain et journaliste de gauche, je pense que l'analyse de beaucoup de gauchistes est trop simpliste. Et de dire que l'argent domine tout, c'est une simplification exagérée. Parce que, à mon avis, les deux partis politiques, et aujourd'hui le Parti démocrate, pour l'instant, c'est eux qui mènent le jeu. Et que, bien sûr, les grandes sociétés, les grandes entreprises en profitent, ils travaillent ensemble, mais c'est plutôt les politiciens qui tiennent le pouvoir, toujours. Et si on pouvait changer l'équilibre politique, on pourrait faire beaucoup plus. Mais pour l'instant, il y a un genre d'oligarchie politico à faire. Mais c'est pas simplement les riches et les grandes entreprises qui achètent l'influence et qui achètent des politiciens. C'est plutôt les politiciens qui intimident ou qui pratiquent l'intimidation sur les hommes d'affaires.
En même temps, les politiciens américains il faut être quand même très riche pour arriver à être sénateur aux États-Unis. Une campagne coûte une petite fortune, donc ils sont,
oui,
quand même.
C'est vrai, mais Barack Obama n'était pas riche, mais il avait le soutien riche du Parti démocrate de Chicago. Donc on peut être riche et pas gagner. Peut-être c'est trop spécifique, mais je peux vous citer un exemple dans l'État de Connecticut, où un riche de gauche, qui avait à peu près une fortune de 300 millions de dollars, Ned Lamont, avec un nom français, qui a mené campagne dans le primaire démocrate en 2006 pour le Sénat, pour protester le vote pro-invasion d'un certain Joseph Lieberman, un baron du Parti démocrate. Lamont était autofinancé et il a gagné dans les primaires. Et voilà que Barack Obama a refusé, parce qu'il était très ami avec Lieberman, il a refusé de faire des interventions pour aider Lamont. Et Lieberman a formé son propre parti, entre guillemets, le parti pour l'État du Connecticut. Il a rassemblé tous les fidèles du Parti démocrate et il a battu Lamont dans l'élection générale. Donc voilà un type très riche, Lamont, qui n'a pas pu réussir, même avec beaucoup de... Même avec le soutien officiel de l'élection.
Électorat. Je crois qu'on est en train encore de vous perdre. Heureusement.
Vous m'entendez?
Oui, c'est bon.
Oui.
Non, allez-y, continuez alors.
C'est simplement pour dire que Lamont, si c'était simplement une question d'argent, Lamont serait aujourd'hui sénateur du Connecticut. Mais le pouvoir du Parti démocrate reste primordial. Des barons. C'est très médiéval.
On a parlé, en tout cas, lors de cette élection en France, du problème du Parti républicain qui se retrouve un peu coincé avec la caricature qu'on a fait un peu des Tea Party et d'un parti qui devient de plus en plus à droite. Est-ce que vous avez cette impression-là?
Je ne dirais pas qu'ils sont en crise parce qu'ils sont en majorité dans la Chambre des représentants. Donc ils ont tous les moyens pour empêcher qu'Obama fasse des projets de loi ou qu'il fasse quoi que ce soit comme changement. Mais ça arrange Barack Obama. Il n'a pas grand intérêt à changer quoi que ce soit. Le débat maintenant entre les républicains et les démocrates, il y a un tout petit écart entre les deux positions. Et j'imagine que vos auditeurs seront intéressés surtout par le consensus, par exemple, sur le libre-échange. Les deux partis, démocrates et républicains, sont farouchement pro-libre-échange. Et il n'y a pas question de mettre des tarifs pour protéger le marché américain contre les importations chinoises. Il n'y a pas question de faire quoi que ce soit comme politique sérieuse pour freiner la délocalisation de l'emploi industriel. Parce que ça nous affaiblit beaucoup. Romney avait absolument raison. Mais Romney aussi, lui, il soutenait le consensus libre-échangiste. Donc, quand vous entendez qu'il y a un grand débat entre droite et gauche en Amérique, c'est une nette exagération. Il y a un tout petit écart, et vous allez voir une toute petite augmentation du taux maximum marginal sur les revenus individuels. Peut-être de 35 à 37%. Et en échange, Obama va céder beaucoup aux républicains. Donc je peux pas dire que les républicains sont en crise. Il y a un débat à l'intérieur du parti républicain, mais c'est surtout sur les mœurs.
Bien sûr.
L'avortement, est-ce que ça devrait être légal? Des choses comme ça, plutôt que sur les grandes questions politiques, libre-échange, délocalisation, réforme du secteur financier, guerre. Encore, il y a un consensus entre les deux parties pro-guerre, pro-intervention en Afghanistan.
Oui, vous dites même que... Vous dites même que la politique de George Bush a été dans une continuation, l'a même empirée. Par exemple, le fait que l'armée américaine rentre de plus en plus sur le territoire pakistanais pour faire certaines opérations, ça a été accéléré par Obama.
Oui, complètement. Avec ces attaques de drones, Obama a étendu la politique étrangère belliqueuse de Bush. Et c'est ce soi-disant preuve de constitution, de droit constitutionnel. Il viole la constitution chaque fois qu'il lance un drone. C'est complètement anticonstitutionnel. Mais parce que c'est un soi-disant homme de la gauche et un noir, etc., personne se plaigne dans son parti, presque personne. Et les républicains sont aussi pro-attaque de drones. Il y a chez nous ce que j'appellerais la droite libertarienne, représentée par un certain Ron Paul, qui est très bon, très bien, il est anti-guerre, anti-intervention en Afghanistan, mais il est très peu écouté dans son parti.
Oui, pour les auditeurs, les libertariens sont des gens qui considèrent que l'État doit être quasiment inexistant dans le système. Jean-Philippe et Marie-Jean, justement sur cette différence entre les républicains et les démocrates, qui pour l'Europe est encore importante. Vous êtes d'accord avec John MacArthur, il n'y a plus de différence, en tout cas sur les grands sujets de société politique internationale et économique.
Écoutez, les seules différences, effectivement, comme vient de dire Rick, c'est des problèmes qui d'ailleurs ont été réglés en Europe, enfin, depuis longtemps, des questions d'avortement, etc. Enfin bon, je me souviens un jour, le commandant Cousteau, il y a longtemps avant sa mort, il était encore salarié de Ted Turner, de CNN, mais il s'était énervé à un journal en disant c'est pas possible, les Américains, sur tout un tas de sujets de société, sont 50, 60 ans, 100 ans en arrière. Enfin, le grand effort d'Obama qui, dans l'armée américaine, a été de supprimer cette loi sur les homosexuels, enfin, qui, le Don't Cast, Don't Tell, on en a beaucoup parlé, c'est totalement baroque. Enfin, si on avait ça dans l'armée française, pour ne citer que l'exemple le plus célèbre, ce pauvre maréchal Lyautey aurait été viré de l'armée au bout de 10 jours et il a fini avec tous les honneurs de la République. Donc, par moments, les Américains sont dans des débats qui nous paraissent totalement baroques. Et puis, sur les autres sujets, bon, l'économie, la politique étrangère, l'intervention militaire, il y a effectivement peu de différences entre les républicains et les démocrates. Ce qu'on constate, c'est que pour nous, français, Obama a été le président de tous les reniements, mais on l'a pas bien écouté. Quand Obama, alors même qu'il est tout juste candidat, va à Jérusalem et dit Jérusalem, capitale indivisible, unique et indivisible de l'État d'Israël, ça ferme pour l'avenir toute porte aux Palestiniens, parce que il verrouille. Le discours du Caire, effectivement, comme a dit Rick, Obama est allé chercher le quitus du grand allié local qui est l'Arabie Saoudite. L'alliance saoudienne est plus importante même que l'alliance israélienne. On pourrait dire que si un jour ils devaient se séparer d'un de leurs deux alliés, je ne sais pas si Rick sera d'accord, ils se sépareraient de l'alliance israélienne et sûrement pas de l'alliance saoudienne.
Ah non, je suis tout à fait d'accord, Jean-Philippe.
Bon. Et ensuite, sur le fond, le discours du Caire, il n'a rien dit. Moi, il y a quelque chose que j'avais relevé et qui m'avait choqué. Sur le fond, c'est, en gros, Obama dit, en 3 minutes de temps, le monde arabo-musulman, les valeurs de l'islam, c'est bien quand ça correspond à l'Amérique, aux valeurs américaines. Et surtout, oublions nos différences, parce que c'est lorsqu'on parle des différences qu'on se fait la guerre. Bon. Personne n'a relevé en France, mais c'est profondément choquant. Moi, j'ai appris dans la guerre des Michards, enfin, entre autres, je suis un peu vieux, il y a peut-être autre chose que la guerre des Michards,
mais que
sont précisément, nous, on a fondé les Lumières sur la différence, c'est précisément l'égalité en droit sur lequel on a fondé nos institutions, c'est précisément parce que l'autre est différent qu'il est mon égal. Et c'est parce que l'autre est différent que je fais l'effort d'aller vers lui. Si l'autre me ressemble, j'ai pas besoin de faire un quelconque effort, j'ai pas besoin de l'intégrer dans un système politique. Il est d'emblée comme moi. Bon. Et quand Obama sort quelque chose comme ça, mais ça correspond tout à fait à l'idéologie américaine de tous les hommes sont créés égaux, personne ne bronche. Donc il y a ce qui est très intéressant, c'est donc grâce aux articles de Rick, enfin, qui sont mensuels dans Le Devoir, malheureusement qui ne sont pas lus en France, qui sont lus au Québec mais pas en France, mais dont on trouve là une synthèse, une compilation dans son ouvrage L'illusion Obama, c'est cette distorsion totale qu'il y a entre ce que savent finalement les Américains, ce dont ils parlent. Ensuite, il y a un débat. Et puis, la vision que les Français ont des États-Unis et ont d'Obama. Bon. Sur le cas de Guantanamo, pour aller très, très, très vite, on a fait des gorges chaudes de sa promesse de fermer Guantanamo. En fait, même avant même d'être inauguré, intronisé, enfin, je prends l'anglicisme, inauguré, il avait dit qu'il fermerait Guantanamo, virgule, dans le respect des règles de sécurité nationale. Et quand vous lisez son executive orders le lendemain de son installation à la Maison-Blanche, la dernière phrase, c'est effectivement, virgule, pour peu que les règles de sécurité nationale soient, ne soient pas mises en péril. Or, la sécurité nationale, depuis le 11 septembre 2001, et même avant, puisqu'il y a une disposition dans la Constitution américaine même qui subordonne toutes les libertés publiques à des questions de sécurité nationale, ça s'appelle la suspension clause. C'est quelque chose d'absolument unique dans les constitutions des pays dits démocratiques. Vous pouvez toujours chercher en France, en Grande-Bretagne, partout, ça n'existe pas. Même notre article 16, ça n'a rien à voir. Vous avez vraiment une disposition qui permet de suspendre les libertés publiques s'il y a une menace d'invasion, de terrorisme. Et tout ça, c'est dans le texte de la Constitution dès 1787. Mais dès que vous parlez de sécurité nationale, surtout depuis 2001, vous êtes sûr que ça va complètement gréver tout ce qu'il y a avant. Bon, et je me souviens, il y a 4 ans, je suis un de vos confrères, le jour de l'inauguration d'Obama, on me dit il va fermer Guantanamo, et je dis non, vous n'avez pas écouté Obama, il ne fermera Guantanamo que si les règles de c'est dans le respect de la sécurité nationale. Donc il ne fermera pas. Bon, donc 4 ans après, il n'a pas fermé. Alors on peut dire c'est pour des raisons de rapatriement des prisonniers sur le territoire américain, etc., etc., etc. Mais il était clair quand vous écoutiez Obama qui ne fermera pas Guantanamo. On pourrait décliner comme ça tout un tas de choses. Et le mérite de Rick, c'est de en temps réel de dire attention, ça ne va pas se faire. Il y a le discours, mais si vous écoutez bien ce que dit Obama, en fait, il faut penser totalement, enfin autrement. Le problème des Français, c'est qu'ils n'écoutent pas.
Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et nous recevons par téléphone John MacArthur pour son livre L'illusion Obama, et avec Jean-Philippe Imarijon qui avait sorti Pour en finir avec la France-Amérique. John MacArthur, une question de Pascal Essérique.
Oui, je voudrais revenir sur l'article que vous intitulez « La pensée unique américaine ». Dans une de vos chroniques, donc, vous expliquez qu'un jour vous vous êtes réveillé d'un cauchemar en nage, vous aviez rêvé que dans les kiosques, il n'y avait plus que le New York Times. Et en fait, au moment de descendre, vous vous apercevez qu'il y a peut-être énormément de journaux, mais en fait, ils disent tous un peu la même chose. Et je voudrais revenir là-dessus, ce qui fait que vous publiez vos articles dans Le Devoir. Enfin, je voudrais revenir sur la pensée unique américaine, parce que vu de France, on a l'impression d'un pays où idéologiquement, ça bouillonne.
Attends, Rigu, juste un mot, parce que pendant l'interruption, j'ai fait remarquer que toi, quand bien même tu étais membre de l'establishment new-yorkais et directeur, baron de presse, comme tu as dit un jour, baron de presse d'une grande revue historique américaine, lorsque tu voulais dire quelque chose en dehors, out of the box, tu étais obligé de le faire soit sur des sites internet alternatifs, soit alors précisément dans la presse québécoise ou dans des ouvrages ou dans des journaux en France.
Heureusement que je suis moitié français, je prends la citoyenneté française, et que ma mère a insisté que j'apprenne le français, parce que là, j'ai quand même la capacité de m'exprimer en dehors des frontières des États-Unis, parce que c'est Tocqueville qui a remarqué très tôt, et bien qu'il admirait beaucoup de ce qu'il a vu en Amérique. Il a remarqué comment c'était étroit le débat politique et comment, on avait le droit de dire n'importe quoi et de s'exprimer dans n'importe quel milieu, mais là, on avait aussi le droit de se marginaliser complètement. Alors, si vous osez, et je parle de droite et de gauche, extrême droite, extrême gauche, un peu à gauche, un peu à droite, de s'exprimer d'une façon en dehors des orthodoxies du moment, vous êtes tout de suite marginalisé. Donc, et le New York Times, c'est vraiment le grand, la tribune du consensus. Et on peut dire qu'il y a, un petit écart idéologique entre, disons, le Wall Street Journal de Murdoch et de New York Times, mais encore je reviens sur des questions comme le libre-échange, la politique étrangère wilsonienne, ils sont plus ou moins en accord. Le Wall Street Journal, New York Times, le Washington Post. Donc pour avoir des nouvelles, je cherche souvent dans la presse étrangère. Je presse le Figaro, je trouve le Figaro plus intéressant que le New York Times. Et pour mes infos vraiment sérieuses, je me penche sur le Financial Times de Londres.
Oui, je...
Pascal.
Alors, cette semaine...
Ah oui, et si vous voulez que j'ajoute juste quelque chose de personnel...
Oui, allez-y, bien sûr.
Alors que je critiquais farouchement George Bush et l'invasion de l'Irak, et que tout le monde, toute la gauche, soi-disant, était horrifiée par la présidence Bush, et j'ai à peu près fait la même chose... alors que Obama est élu, je continue ma critique parce que Obama a pour la plupart continué la politique de Bush, avec une seule exception intéressante. Bush a promulgué une loi pour augmenter les salaires minimums fédéraux. Et Obama a notamment refusé d'augmenter en tant que bon gauchiste le salaire minimum fédéral. Mais à part ça, ils sont plus ou moins en accord sur les grandes questions. Alors je commence à critiquer, et ma revue Harper's, mon magazine, commence à critiquer Obama, et on est tout de suite, alors que j'étais souvent invité sur les ondes à la télévision, à la radio américaine, et je parle de grandes émissions nationales. Aujourd'hui, je serais étonné d'être invité sur une petite, un petit poste de radio de gauche.
Oui, c'est étonnant.
Alors, il faut dire que dans votre livre, vous racontez cet épisode qui m'a fait sourire. C'était en 2006, je crois, et vous traciez, donc c'était bien avant qu'Obama soit connu et parvienne à ses aux plus hautes fonctions. Vous aviez présenté le candidat Obama et à la radio publique américaine, et vous aviez fait pleurer une militante démocrate.
Oui, elle m'a accusé d'être à droite. Elle a dit que j'étais agent provocateur du venant de la droite. Alors c'est là où j'appelle Jean-Philippe pour pleurer, pour me réconforter, parce que là c'est trop triste. Je cite un des ouvrages de Jean-Philippe dans une des chroniques, mais je cherche souvent à m'inspirer des écrits de Jean-Philippe pour m'aider à mieux comprendre l'Amérique, parce que lui, étant avocat et savant dans le droit constitutionnel américain, il connaît plus que moi.
Pourtant, on a souvent présenté sur les grandes réformes d'Obama, c'est sa fameuse réforme sur la santé publique qu'il aurait fait, qui depuis, je crois, même Clinton devait être mise en place. Est-ce que réellement il y a une vraie réforme à ce niveau-là aux États-Unis?
Non, et il y a beaucoup de gens bien qui disent, pas seulement moi, des médecins qui disent que c'est une nette régression. Parce que c'est finalement un transfert énorme d'argent public ou du contribuable au privé. Parce qu'on garantit 30 millions de polices d'assurance subventionnées par le gouvernement au privé. Parce qu'on est sous cette loi, on est obligé d'acheter une police d'assurance du privé. On n'a pas le choix. On n'a pas le droit d'acheter un police public ou français ou canadien ou je ne sais pas trop bien. Mais c'est un genre de récompenser les sociétés d'assurance alors qu'ils n'ont pas besoin d'être récompensés. Mais les sociétés d'assurance donnent beaucoup d'argent aux candidats démocrates. comme Max Baucus, et qui on devrait vraiment on devrait appeler Obamacare Baucus Care, parce que c'est le sénateur du Montana qui a rédigé le projet de loi avec l'aide d'un lobbyiste, d'un ancien lobbyiste d'une énorme société d'assurance.
Pascal Hésterique.
Et je pense que les Français sont au courant du fait que Obamacare, c'est à peu près la même chose que Romneycare. Ce que Romney a fait dans l'État de Massachusetts, c'est encore le grand consensus américain.
Oui.
Pascal Hésterique.
Pour tout vous dire, John MacArthur, j'ai lu votre livre en parallèle. Je lisais donc en parallèle un livre d'Elie Zaretsky qui s'appelle Left, essai sur l'autre gauche aux États-Unis, et qui donc. Elie Zaretsky, c'est un historien qui est professeur à la New School for Social Research de New York. Vous savez, c'est lui qui a fait le siècle de Freud.
Oui.
Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il parvient avec difficulté, moins bien que vous. Mais à la fin, page 268, on arrive à la fin du livre et il dit... Il ne sera pas facile de tourner le dos au premier président noir des États-Unis, mais il nous faudra le faire si nous voulons vraiment progresser.
Oui. Eh bien, bravo. vous m'enverrez le titre parce que je ne l'ai pas lu.
Oui.
Mais il y a très peu de gens qui ont osé critiquer Obama parce qu'il est noir.
C'est un peu
difficile de critiquer. Oui, bien sûr, c'est un bon symbole de voir un noir à la Maison Blanche, etc. Mais d'aller de là jusqu'à la rédemption de l'âme américaine, c'est encore une absurdité. On a eu des politiciens noirs avant Obama. C'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'élus noirs. Et il y a aussi beaucoup de noirs qui font partie de la machine politique de Chicago, qui sont des outils du système. Obama, c'est un outil du système.
Alors, on s'est aperçu quand même en Europe aussi, on a eu quelques désillusions, mais je dirais que les désillusions par rapport à Obama, c'est que, et on s'en est aperçu pendant cette campagne, c'est que l'Europe, dans la campagne américaine, a été complètement absente. Et est-ce qu'on a l'impression que l'Amérique s'est définitivement tournée vers le Pacifique et l'Europe ne l'intéresse plus?
Oui, sauf que Berlin intéresse beaucoup l'Amérique. Parce que j'explique à mes amis québécois, quand je vais déjeuner avec le nouveau premier ministre québécois vendredi, madame, j'ai perdu son nom. En tout cas,
Pauline Desmarais, là. De Marois.
Ouais. Désolé.
C'est pas grave.
En tout cas, il me demande souvent, il m'interroge, est-ce que l'Amérique ou Washington s'intéresse à Montréal? Et je leur dis, malheureusement, Washington s'intéresse à Toronto parce que c'est là où se trouve la grande finance canadienne, où sont siégées les banques canadiennes. Il y a là où se trouve le pouvoir financier. Et c'est un peu la même chose avec Berlin-Paris. Berlin, c'est là où se trouve aujourd'hui le pouvoir financier. Et alors, on s'intéresse un peu à Berlin. Je peux vous assurer qu'il y a des projets on planifie pour l'avenir allemand et pas nécessairement sur l'avenir de l'Europe.
Pascal Hésterique.
Oui, pour votre déjeuner, c'est Pauline Marois.
Pas Marois, excusez-moi. Désolé, madame Marois. Désolé.
Alors, vous avez...
Il est possible, tout à fait possible, qu'Obama s'intéresse plus en Asie parce qu'il a passé un peu de temps lors de sa jeunesse en Indonésie. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas.
Alors, il y a un chapitre qui est assez surprenant, parce qu'on parle quand même de la France un peu dans votre livre, mais c'est terrible pour les Français parce que c'est vrai qu'on est quand même conscient qu'on représente plus grand chose sur le plan international. Mais alors, aux États-Unis, vous consacrez un chapitre à la France en nous expliquant qu'il y a eu deux expositions qui ont eu un certain succès à New York. Alors, on se dit, bon, ça va être des expositions de peintres, et on s'aperçoit que c'est la France et Vichy. Qu'est-ce qui fascine depuis, je dirais, l'historien Paxton, l'intelligentsia américaine pour le pouvoir de Vichy?
Ben, vous savez, ça fait un peu partie de notre histoire. On se glorifie pour le débarquement, pour l'intervention, avouons-le, tardive dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un côté très sentimental en Amérique qui voudrait croire que c'est l'Amérique qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale et non pas les Unions soviétiques et les Anglais et les Britanniques. Excusez-moi, vous me demandez quoi exactement?
C'est assez surprenant parce qu'on a du mal quand même à penser que à New York, ils n'ont que ça à faire que de faire des expositions
sur
Vichy.
Oui. Alors Vichy, ça fait partie de, c'est pas la mythologie américaine, mais ça fait partie des les bons et les méchants. Alors les Français sont un peu méchants, plus méchants que les autres, ou plus lâches. Les Américains sont les plus courageux. Vichy, ça aide notre amour propre. On reste fasciné avec la collaboration. C'est un sujet intéressant, mais on parle très peu de la collaboration, disons, hollandaise, des Néerlandais. J'étais frappé, je ne sais pas si je l'ai mis dans la chronique, que le nombre de Juifs renvoyés au camp d'assassinat, de meurtre. C'est Graham Greene qui disait toujours, c'était des camps de meurtre. Pas des camps de mort, des camps de meurtre. Alors, mais il y a le pourcentage des Juifs hollandais envoyés à la mort, c'est plus large, bien plus large que le pourcentage des Juifs français.
Jean-Philippe Bimarion, sur ce sujet, est-ce que vous pensez que c'est anecdotique ou c'est une façon pour les Américains de ne pas parler de leur propre histoire, de regarder celle des autres?
Non. Il y a une déqualification, disqualification de la France qui, de toute façon, a été réelle. Pardon. Deux choses. Un, ce que disent les historiens américains est quand même extrêmement intéressant parce qu'il n'y a pas que Paxton. Ils vont chercher quand même des choses qu'on... Maintenant, on a ouvert tous les tiroirs en France.
Oui, ça a un peu évolué.
Ça a beaucoup évolué, mais une vision qui est très intéressante. Il faut oublier un peu, effectivement, le côté French bashing, parce que il y a tout ce qu'on raconte, les éditoriaux, les conférences ou les livres sur Vichy qui présentent la France comme une nation, enfin de singes mangeurs de fromage et capitulaires. Bon, ceci dit, historiquement, les Américains sont toujours restés sur une vision qui n'était pas fausse. Faut pas oublier aussi que on peut reprocher beaucoup de choses à Roosevelt, à son ambassadeur à Vichy, Bullitt. La France est quand même en état de mort clinique le 17 juin 1940, lorsque Pétain fait son allocution. Donc, sur le moment, ils ont tiré les conséquences de la sortie de l'histoire d'une grande nation. Je crois qu'ils ont été... Schirrer, William Lang le disent. Les historiens américains, dans les années 50-60, ont dit que ça avait été, y compris pour les Américains... un choc, cette sortie de l'histoire. Maintenant, ils cultivent ça un peu artificiellement pour systématiquement, lorsque ça les arrange, nous enfoncer la tête sous l'eau. Ceci dit, sur le fond, c'est quand même très très intéressant ce qu'ils peuvent dire. Mais vous savez, ça va, ça vient. Il y a des représentations. Moi, j'ai toujours été surpris de la finesse quand même de la vision de la France de Vichy au Maroc, Casablanca, dans le film de Michael Curtis. C'est très caricatural, mais c'est pas faux. Et c'est pas faux, le rôle du capitaine Renault joué par Claude Rains, il est extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Donc il y a quand même chez les Américains, lorsqu'ils font l'effort de s'intéresser à notre histoire et lorsqu'ils oublient un peu leur volonté de nous rabaisser, et des choses extrêmement extrêmement utiles pour nous.
Allez-y.
Si je peux ajouter juste c'est que les Français prennent compte de l'ignorance américaine sur sa propre histoire. Jean-Philippe vient d'invoquer l'ambassadeur, j'ignore son nom.
Bullitt, William Bullitt.
Jusqu'en 42.
Ça a été l'amiral Lee, c'est Bullitt, et ensuite il a été remplacé par l'amiral Lee, ouais.
Je peux vous assurer qu'il y a 2% des enfants américains qui apprennent ce fait extraordinaire qu'on avait un ambassadeur à Vichy jusqu'en juillet 42, je pense. Et il y a très peu d'Américains qui sont au courant des convois de Juifs réfugiés qui ont été repoussés, rejetés des ports américains en 38, 39, 40. C'est pas brillant notre politique envers les Juifs.
Alors, il nous reste quelques minutes. Obama vient d'être élu. On s'aperçoit, je lisais en préparant cette émission, qu'aujourd'hui 47 millions d'Américains seraient dépendants des bons alimentaires. On voit arriver tout un nombre de livres en France. On a reçu il n'y a pas si longtemps Mireille Tsaki pour son livre sur la fin du dollar, ou le livre d'Olivier Zajec sur la nouvelle impuissance américaine. Pensez-vous, comme ces auteurs, que l'Amérique a peu de chances de rebondir, qu'elle est en train de s'enfoncer dans l'une de ses crises les plus graves?
Vous me demandez...
Si l'Amérique va s'en sortir, on a l'impression aujourd'hui que, de toute façon, ils vont vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des nouvelles puissances qui se mettent en place, l'Amérique est en train de perdre sa place en tant que première puissance.
Oh oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a toujours la puissance militaire et les dépenses militaires continuent à saigner l'Amérique. Mais Jean-Philippe est plus expert dans ce domaine. Mais je pense qu'on a toujours la capacité de mener guerre sur deux continents en même temps.
On peut pas dire que ça a été brillant quand même.
Non, pas du tout. Mais les dépenses sont énormes. Je parle pas de l'efficacité de l'armée américaine, simplement de l'envergure, de largeur et les dépenses. Ça contribue beaucoup au déficit fédéral. Mais ce qui est plus grave, c'est cette déindustrialisation de l'Amérique qui continue sans vraie discussion. On est très content d'envoyer l'emploi en Chine, au Mexique, d'abord au Mexique et ensuite en Chine, avec nos accords de libre-échange, et parce que les frais de la main-d'œuvre sont plus bas.
Oui, parce que vous dites bien, parce qu'en France, on a pris au moment des nationalisations des grands constructeurs d'automobiles américains, on a pris l'exemple d'Obama, mais vous expliquez bien que aujourd'hui, la production de voitures américaines est en train de se faire de plus en plus au Mexique et non plus sur les États-Unis eux-mêmes.
Oui, ça va continuer à baisser. L'emploi chez ces constructeurs est syndicalisé. Continue à baisser, mais le syndicat principal des constructeurs d'auto est l'otage aujourd'hui du Parti démocrate. Donc ils n'ont plus les moyens de protester quoi que ce soit. Et vous allez voir une continuation de cette baisse de puissance et de possibilité d'exporter des produits industriels que le monde voudrait acheter dans les prochaines années. Parce que aujourd'hui, c'est un système économique dominé par la grande finance, par Wall Street, et qui n'en a aucun intérêt à produire quoi que ce soit aux États-Unis. On a tout intérêt à ce que les choses soient produites, construites par une main-d'œuvre plus bon marché.
Merci à vous, John MacArthur, pour votre patience et puis d'avoir accepté en direct pendant une heure. Je ne sais pas quelle heure il est à New York en ce moment.
Il est maintenant à 16h30. Est-ce que je peux dire 4h30?
Oui, vous pouvez.
J'ai la permission de dire 4h30.
Donc, je rappelle aux auditeurs votre livre qui est sorti au mois de septembre. C'est L'illusion Obama. John MacArthur, vous êtes le directeur de Harper's Magazine. C'est chronique d'un intellectuel libéral aux États-Unis. C'est aux éditions Les Arènes. Bah écoutez, John MacArthur, merci. Je rappelle donc effectivement votre livre et on vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une bonne année 2013.
Merci à vous et joyeux Noël et bonne année. J'espère qu'on se reverra dans le nouvel an.
Avec plaisir.
Avec grand plaisir.
Ok.
Jean-Philippe et Marie-Jean, avant qu'on fasse notre petite pause, justement sur cette Amérique qui serait capable de rebondir, vous y croyez ou vous êtes pessimiste?
Juste en appendice, je voudrais dire que dans sa postface, John MacArthur n'est pas très optimiste, puisque l'exception américaine, son destin manifeste, ne sauveront pas nécessairement un président aussi compromis que celui-ci. Il a des mots assez durs, plus durs peut-être que ce qu'il vient de dire à l'oral.
Oui, moi je pense que le problème, c'est un problème quand même de changement de monde, c'est le problème des Américains, mais des Chinois, des Européens, etc. Le problème de l'Amérique, c'est qu'elle s'est basée sur un logiciel historiquement, ouais, très très rapide, sans intellectualiser trop, c'est-à-dire un logiciel d'un capitalisme de nature libérale dans un monde qui adoptait le matérialisme et le déterminisme de Condorcet, etc., Laplace. Et puis bon, le pendant à gauche, ça a été Marx, etc. C'est ça qui ne passe plus, parce qu'on a un logiciel qui, d'organisation, de vision du monde, qui ne permet plus de gérer, à mon avis c'est une crise unique, mais qui se décline militairement, financièrement, écologiquement, etc., etc. Je pense que le problème de l'Amérique, c'est qu'elle est incapable de changer de logiciel. C'est ça qui a fait sa puissance, c'est ça qui a fait sa gloire, c'est ça qui a fait qu'elle a été la locomotive pendant deux siècles de l'Occident et du monde entier. Pas oublier que Tocqueville avait vu que l'Amérique était contingente. Tocqueville, encore une fois, je l'ai écrit, je le redis, n'a jamais dit que l'Amérique, c'était bien, c'était chouette. Il a simplement dit, vu ce qui vient de se passer à la fin du 18e, vu le basculement d'ailleurs, puisque Tocqueville est pascalien, est un vieil ultra qui est très attaché à la vieille Europe. Mais il dit, ça, pour le moment, vu ce qui vient de se passer, vu ce monde que je n'accepte pas, moi Tocqueville, mais il faut faire avec, un monde de déterminisme, matérialiste, individualiste, égalitariste, etc. C'est l'Amérique qui va mener le jeu. Bon, toute la question, moi je pense qu'on est en bout de course de ça, pas seulement de l'Amérique, mais on est en bout de course d'un modèle. Nous avons, puisque c'est chronique de la vieille Europe, d'autres modèles. On a connu d'autres choses, sans remonter à des systèmes féodaux, etc. Le grand siècle et la première partie des Lumières ont développé un humanisme et une notion de la liberté qui n'était pas du tout déterministe, matérialiste. C'est venu assez tardivement dans le XVIIIe siècle. On connaît depuis les années 20 une pensée, un renouveau d'une pensée indéterministe. Quand on parle beaucoup, sans très bien comprendre, c'est tout ce qui tourne autour de la physique quantique, mais des tas de philosophes comme Valéry, Paul Valéry, et puis ensuite on développait ça. Aujourd'hui, on a Edgar Morin, on a eu Michel Crozier, la société bloquée, enfin qui dit qu'il faut revenir à un modèle qui ne soit pas un modèle de management verrouillé, etc. Nous avons la possibilité de développer ça. Il y a des cultures orientales que je connais mal, enfin bien qu'ayant vécu en Asie, qui elles aussi ont dans leur philosophie une possibilité de sortir de ce modèle verrouillé, laplacien, bloqué, managérial. Je pense que le problème de l'Amérique, c'est qu'elle n'a pas d'autre logiciel que ce qui a fait son succès pendant deux siècles. Donc, elle peut rebondir ponctuellement. On a parlé du gaz de schiste, un autre débat, mais c'est très intéressant. Tout le discours autour du gaz de schiste aux États-Unis, en fait, et c'est un autre reniement de Obama. Le gaz de schiste, c'est jamais que du pétrole qui dit pas son nom. Et les Américains disent franchement, bon, on va arrêter de faire des efforts, énergie alternative, de réduire les villes, de redessiner nos villes autrement, etc. Finalement, on a encore avec ça 10, 20 ans de pétrole à mettre dans nos réservoirs, à mettre dans nos bombardiers.
Allons-y gaiement.
Repartons pour un tour, etc.
C'est, oui, c'est une sorte de nouvelle ruée sur l'or,
c'est
une
suicidaire,
sorte de mythe.
Voilà. Et donc ça, franchement, c'est suicidaire, parce qu'on voit où ça a amené. Une première crise dans les années 70, où on redémarre, une deuxième crise maintenant. Si les Américains repartent encore pour un tour, à mon avis, ils vont se reprendre le mur. Il faut absolument, nous, qu'on fasse l'effort de ne pas les suivre là-dedans. Enfin, je n'ai pas d'opinion précise sur le gaz de schiste, mais c'est quand même la solution de facilité. C'est-à-dire, les Américains ne peuvent pas faire autre chose que tirer sur la ficelle, sur la ficelle, sur la ficelle. Alors, ils peuvent rebondir. Ils peuvent effectivement, grâce à ça, par exemple, retrouver de l'indépendance énergétique, donc, il ne faut pas oublier, de l'indépendance militaire, donc diplomatique. Parce que tout l'intérêt des Américains, c'est de plus d'avoir à être constamment l'œil fixé sur le détroit d'Oman, de plus avoir en permanence à avoir deux porte-avions dans le coin, des bases en Arabie Saoudite, donc éventuellement de se replier totalement de cette région et peut-être un jour, justement, ils n'auront plus besoin de lâcher l'alliance saoudienne. Mais c'est reculer pour mieux sauter. Donc moi, je replace plutôt dans mes derniers articles et dans La France Amérique, je replace plutôt la crise de l'Amérique dans une crise donc d'un certain modèle occidental, pas du modèle occidental, mais d'un certain modèle occidental que l'Amérique, dont l'Amérique ne peut pas se départir parce qu'elle n'en connaît pas d'autres. Il faut absolument que nous. Mais je sais que les Chinois aussi, maintenant qu'ils ont accédé au paradis capitaliste, réfléchissent également à trouver quelque autre chose, à aller dans un au-delà. L'Amérique aura beaucoup de difficultés à passer dans un au-delà, même si elle peut rebondir pendant 5 ou 10 ans. Je pense qu'à terme, elle va franchement sortir de l'histoire. C'est pas pour ça qu'elle disparaîtra physiquement, comme bon, on entend. Spanien, je crois qu'il y a pas de sécession, de trucs, moi j'y crois pas. Même s'il y a des tensions extrêmes, c'est un pays qui a quand même une solidité, mais qui peut s'isoler. C'est un pays d'insulaires, c'est un pays de gens qui s'isolent finalement du monde historiquement. Il y a aucune raison qu'ils se tapent dessus dans le RIL, mais ils peuvent très bien se replier dans ce que j'avais appelé dans un précédent essai Féodalic Park, parce que c'est quand même quelque chose de très spécifique, l'Amérique.
Alors on va juste faire une petite pause, et puis si Jean-Philippe et Marie-Jean veut continuer encore quelques minutes, parce qu'on va avoir ensuite, je crois, oui, Pascal, à une autre personne au téléphone, où on va parler de polar, mais toujours au niveau américain. Donc on va faire une légère pause musicale, et vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, donc restez avec nous. Dans l'émission Les Chroniques de la Vieille Europe, nous avons eu dans cette première partie très enrichissante John MacArthur au téléphone pour l'illusion d'Obama, et nous sommes avec encore Jean-Philippe Imarijon. Nous allons avoir au téléphone un autre invité, cette fois-ci pour parler de polar. Alors Pascal et Céric, vous allez nous parler de... Alors, moi je suis vraiment nul. Je crois que mes derniers polars, ça devait être Agatha Christie. Là, je crois qu'on est... Non, j'exagère un peu. Mais là, on va parler vraiment de l'Amérique profonde avec Pierrick Guiteau. Donc, vous allez peut-être nous présenter un peu pendant que la technique est en train de l'avoir au téléphone et qu'on a. Je vous laisse le présenter.
Exactement. Donc, Pierrick Guiteau est un romancier de talent, un jeune romancier de talent. Et journaliste à la revue Élément. Il a publié dans ce dernier numéro un article qui s'appelle Au fond des bois, personne ne vous entendra crier, sur le backwood. Le backwood, c'est une branche du polar. Le polar est plutôt d'essence, ça se passe plutôt dans une ville, et là le backwood c'est plutôt dans les dans les campagnes et les coins reculés de l'Amérique.
Ouais, alors je dis aux auditeurs et je dis bien sûr à Henri de Lesquin qu'on est désolé de dire à chaque fois ce mot en anglais, mais enfin il n'y a pas de traduction, c'est des romans purement américains.
Quoique dans son article, Pierre Higuito essaie d'en trouver, mais il est vrai que c'est un petit peu difficile. Je crois que
on va lui demander, Pierre Higuito, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir. Alors, le backwoods, c'est quoi exactement?
Le backwoods, une des traductions qu'on pourrait trouver, c'est les sous-bois qui sont reculés, accidentés, hors d'atteinte un petit peu. C'est à la fois la cambrousse qui peut avoir éventuellement ce côté péjoratif, mais aussi c'est tous les coins reculés, un peu inaccessibles, éloignés des centres urbains, comme ça où la population est un peu clairsemée et où la présence de l'État fédéral aux États-Unis, si on parle du cas américain, se fait assez distante, si ce n'est par les gens qui viennent collecter les taxes. C'est un peu ça les backwoods, à la fois la notion de coin perdu et d'endroit boisé et un peu accidenté.
Alors ces romans sont un peu nés après la crise de 29. C'est cette Amérique-là qu'on est en train de décrire, cette Amérique qui a vécu cette crise de 29 et cette pauvreté.
Oui. Alors la genèse du polar, un petit peu, c'est on a pour habitude de prendre l'année 1929 comme année de naissance officielle du polar, évidemment par tous les enjeux sociaux de son époque, et avec un roman fondateur qui est Moisson Rouge de Dashiell Hammett. Et moi, ce qui m'a intéressé un petit peu dans cet article, c'était de voir l'autre pendant, puisqu'évidemment le polar est un genre par définition social et urbain. La ville est souvent quasiment un personnage à part entière de nombreux polars. Elle a une présence vraiment très marquée comme ça, et tous les travers de la ville qu'ont un peu nourri tout le polar à travers les différentes décennies depuis 1929. Et en même temps, dès sa naissance, il y avait non pas déjà une branche, mais plutôt un jumeau, une part sombre, un espèce de jumeau maudit. Cependant, c'était le backwoods noir, alors qu'il y a un terme qui a été bien sûr développé ensuite par la suite, et où on peut trouver les fondateurs avec des auteurs comme Erskine Caldwell, qui lui était un auteur qui parlait vraiment du sous-prolétariat du sud des États-Unis, qui avait été complètement ravagé par la crise de 1929.
Alors, Pierre Higuito, nous avons dans le studio donc Jean-Philippe et Marie-Jean, qui dans son livre Pour en finir avec la France Amérique a un chapitre qui s'intitule Au pays des grands cow-boys dépressifs. C'est ça finalement le backwoods, ce sont ces collines américaines, enfin pour peut-être planter le décor de ce genre littéraire, c'est aujourd'hui ces collines américaines qui pullulent de chômeurs, de, vous l'écrivez, hein, de vétérans de revenus fous des guerres libérales, d'accros à la méthamphétamine, et dont les laboratoires clandestins ont remplacé les alambics d'antan.
Oui, c'est ça, parce que c'était un petit peu les backwoods, un des hauts lieux symboliques, on peut dire, c'est la Virginie occidentale, avec les Appalaches, comme on a pu le voir par exemple dans le livre, puis le film Délivrance. C'est aussi les Monts Ozarks dans le Missouri, d'où vient aujourd'hui un auteur comme Daniel Woodrell. Et voilà, c'est un peu, c'est la Creuse américaine, si on veut, les backwoods. C'est ces collines un petit peu, avec toute une mythologie aussi contre laquelle luttent régulièrement les gens qui y habitent, en disant nous ne sommes pas tous des arriérés alcooliques ou drogués à la méthamphétamine et incestueux, mais c'est un petit peu cette mythologie-là qui colle. C'est un peu cette Amérique qui a resté en rade déjà pendant la crise de 29, qui est restée en rade après de tout le modernisme des années 60, qui est restée comme ça, cette espèce de pendant cette part un peu maudite, ces dirty white boys un petit peu, c'est ça sale petit blanc qui veulent pas se plier aux règles du progressisme et du modernisme, et qui sont restés comme ça dans leur colline, et une espèce de menace latente qui menacerait un petit peu la société moderne éclairée. Et c'est aussi ça, cette incarnation des Bakouts qu'on retrouvait dans le film Délivrance, qui avait vraiment là mené à son apogée cette espèce de peur, panique, puisque c'est presque un film d'horreur, de la régression qui était que symbolisaient ces gens-là, ou vu uniquement comme des arriérés qui, dont la méchanceté n'a aucune justification d'ailleurs, si ce n'est que elle est ontologique, quoi. Ils sont méchants parce qu'ils vivent dans des coins reculés à la campagne, loin des centres-villes, et il n'y a pas d'autre explication que ça.
Jean-Philippe Marajon.
Oui, bonsoir. Quand j'intitule un chapitre « Au pays des grands cow-boys dépressifs », enfin, dire, c'est parce que moi, les Américains m'ont toujours paru des gens, finalement, on ne sait pas trop à quoi ils carburent. J'ai découvert dans des textes, même Stendhal, qui n'avait jamais été aux États-Unis, mais des textes de voyageurs dès le début du 19e siècle, c'est cette espèce de mélancolie énorme qui frappe tous les voyageurs dès le 19e siècle quand ils vont aux États-Unis. Effectivement, il y a une Amérique qui est non urbaine, qui n'est pas seulement le produit de crises à répétition, mais qui est celle aussi des cow-boys, enfin de tous les migrants qui finalement ne vont pas au bout du rêve américain. Il y a toute une Amérique qui est née d'une espèce de déception. C'est ce rêve qui n'est pas abouti, qui ne tient pas ses promesses, et des gens s'installent comme ça, mais tout de suite, dès l'expansion entre la côte est, enfin entre la vallée du Mississippi, du Missouri et la Californie, des gens qui s'installent en chemin, qui s'arrêtent en chemin et qui donnent finalement dans tout ce Middle West, et on connaît tout un tas de villes, enfin de petites villes américaines où finalement on ne sait jamais s'il vient d'y avoir un bombardement ou si ça n'a pas été construit, même maintenant, dans un état finalement de salubrité qui est très aléatoire, avec des vieilles guimbardes, même maintenant. Donc c'est cette Amérique finalement qui est très surprenante, on peut l'appeler l'Amérique profonde, et qui m'a toujours donné l'impression d'être une Amérique profonde. Profondément dépressif, parce que finalement, elle n'a pas eu ce qu'elle attendait.
Pierre Guiteau, quels sont les auteurs, enfin, qui ont le plus travaillé sur cette Amérique, enfin, qui ont le plus écrit?
Alors, au niveau des États-Unis, il y en a ils sont innombrables. Enfin, c'est après ceux dont la renommée ou les traductions ont traversé l'Atlantique. Il y a bien sûr James McCain, il y a Charles Williams, il y a William Faulkner qu'on peut voir comme un fondateur, même si c'est pas un auteur de Backwoods noir, mais c'est un peu aussi ce qu'on essaie d'expliquer dans l'article, à quel point son Sanctuaire avec le bâtard de Caldwell était déjà, voilà, qu'on pouvait prendre comme des romans fondateurs. Après, je pense qu'un auteur comme Charles Williams, c'est vraiment emblématique à la fois d'une époque de l'âge d'or du roman noir américain dans les années 50, et puis aussi du polar rural, où chez Williams, il y a une vision qui n'est pas forcément tout le temps négative, qui essaye de faire voir un petit peu la vie des gens, et sans a priori. Après, c'est un genre qui est constamment en équilibre, et il y a beaucoup d'auteurs, y compris récemment aux États-Unis, ou comme Frank Bill, qui, voilà, on reste dans une espèce de côté un peu ultra-violent, négatif, toujours à voir la régression. Et on est toujours proche de l'autoparodie. C'est pour ça que d'ailleurs, après, Charles Williams lui-même a fait des romans qu'on pouvait plus voir comme le côté parodique, Fantasia chez les Ploucs, où on voyait ce côté rural comme ça qui était dépeint de façon un peu négative. C'est difficile d'évoquer le genre sans parler de William Faulkner, d'Erskine Caldwell et de Charles Williams pour le côté américain. Alors évidemment, ça date un peu, mais c'est un genre qui est resté très vivace. C'était aussi un des soucis un petit peu de l'article qu'on a mis dans l'élément, c'était de faire voir que même s'il y avait un historique un peu prestigieux qui remontait déjà assez loin, il y avait aussi encore aujourd'hui des dizaines d'auteurs aux États-Unis qui publient couramment des ouvrages. Alors après, c'est Backwoods noir, c'est country noir, redneck noir, Ozark noir. Enfin, c'est le genre est pas très bien défini en fait. Et c'est un peu un fourre-tout. Et c'était aussi un peu ce qu'il y avait d'amusant dans l'article, c'était d'essayer de retricoter un petit peu tout ça et essayer de voir si on pouvait avoir une vision plus générale et définir un genre comme ça par son regard qu'il a, à la fois opposé au roman noir traditionnel sur la ville et puis aussi parce que tout ce qu'il peut nous dire sur la ruralité, la façon dont on la voit est aussi assez intéressante pour voir disséquer un petit peu le regard et le monde contemporain.
Jean-Philippe Imarion. Oui,
est-ce que vous mettriez dans cette catégorie le livre de Thompson dont on connaît l'adaptation au cinéma qui a été faite en France par Tavernier, Coup de torchon qui traduit bien, pas Coup de torchon aussi.
Si, c'était Coup de torchon.
Qui traduit bien cette espèce de société de petits blancs complètement à la fois désœuvrés et profondément déprimés. Est-ce que c'est un peu ça l'ambiance finalement, quoi que ça ait été transposé dans la France dans la France coloniale.
Oui, alors 1275 âmes.
Oui, c'est ça, oui.
C'est le titre original du livre de Thompson.
D'ailleurs, il y a eu perdu 5 habitants entre la version américaine et la version française. C'est un des mystères qui tourne autour de ce livre. Non, on ne sait pas pourquoi. C'est un ouvrage que, personnellement, j'apprécie très peu. J'ai jamais trop compris les raisons de son succès et de sa notoriété en France. On est là vraiment dans le côté ultra kitsch, quoi. On est vraiment dans le vraiment c'est alors après je sais qu'on va dire Jim Thompson, c'était aussi sa façon de parler de la société américaine, et puis il faut pas le prendre au premier degré, mais enfin on est quand même dans une espèce d'excroissance qui frôle l'indigestion à nombreuses reprises, quoi. C'est la trame narrative, à un moment donné, on se dit, il va se passer n'importe quoi, ou il peut se passer n'importe quoi, et c'est effectivement le cas. Donc, voilà, après, c'est pas le livre que je recommanderais pour découvrir le Bakhout noir, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs conçus à la fois dépeindre vraiment la tragédie, parce qu'il y a un peu de ça, finalement, la tragédie de ces populations rurales, désœuvrées, qui connaissent des grosses difficultés, aussi bien économiques, mais aussi à se situer dans le monde, dans les États-Unis, dans le rêve américain dont ils ont été exclus, avec autant de franchise, autant de dureté même, mais peut-être pas ce regard qui peut paraître condescendant chez Jim Thompson dans cet ouvrage particulier-là. Je pense quand on prend un auteur comme Daniel Woodrell, lui, il vient des Monts aux Arcs dans le Missouri, qui ont été complètement ravagés justement par les labos clandestins de méthamphétamine depuis 20 ans, et qui sont vraiment vus comme une zone où même par beaucoup d'Américains, il vaut mieux éviter de se rendre. Il sait en parler avec une humanité plus profonde, un peu comme chez Pierre Pelot en France, dans son roman Si loin de Cain, où il y a cette humanité où il a beau décrire un clan d'arriérés presque monstrueux, il arrive à un moment donné à nous connecter avec eux et à aller au-delà de... Après, le roman de Jim Thompson, on peut évidemment le découvrir. Je pense que ça peut être un passage obligé, mais c'est pas l'ouvrage que je recommanderais pour découvrir le Bakhout noir.
Alors, ce serait lequel? Ce serait celui d'Erskine Caldwell?
Alors, les romans fondateurs, je pense qu'ils sont... Ils sont géniaux par les prémices et ce qu'ils inaugurent, mais ils sont pas forcément emblématiques du roman en lui-même. Je pense que moi, je recommanderais trois ouvrages. C'est La fille des collines de Charles Williams, c'est La forêt muette de Pierre Pelot, et puis après, ça serait Faites-nous la bise de Daniel Woodrell. Je pense qu'en plus, on a un panorama qui va des années 50 jusqu'à très récemment les années 2000. On a en plus un auteur français de grand talent qui est Pierre Pelot. Et voilà, c'est vraiment trois ouvrages qui sont à la fois très différents, qui sont totalement Bakhout dans leur thématique, qui nous parlent vraiment des sous-bois obscurs, inquiétants, et de la part la plus sombre de l'humanité, qui peuvent être très simples, comme le roman de Charles Williams, La fille des collines, où les enjeux sont vraiment accessibles pour tout le monde, et ça parle à tout le monde tellement c'est universel. Mais oui, je recommanderais plutôt ces trois ouvrages-là.
Oui, parce que la chose est étonnante qu'il y a dans votre article, c'est que vous vous reliez à certains auteurs français, mais j'avais quand même l'impression que c'était un genre, je me souviens d'une conversation ici avec l'universitaire Denis Lacorde qui me disait que dans l'esprit américain, un blanc qui au bout de 2 ou 3 générations ne réussissait pas, c'est qu'il avait dû avoir des problèmes de maladie ou de consanguinité, que c'était pas normal, c'était le noir ou le métis qui pouvait pas réussir économiquement. Est-ce que c'est un thème que les auteurs français ont repris ou c'est dans le style qu'on peut les rapprocher des auteurs américains?
Non, parce que si vous regardez par exemple l'ouvrage de Marcel Aimé qu'on évoque aussi dans l'article, où il y a déjà cette notion d'une partie de la population qui vit dans des coins reculés et qui est déjà restée un petit peu en marge du progrès, qui est déjà un petit peu arriérée, qui a des tendances à vouloir faire des entorses à la loi, trafiquer un peu, qui reste dans des relations assez claniques avec des histoires de vendetta, de rivalité qui peuvent vite sombrer dans la violence. Donc je pense que c'est pas, pour moi c'est pas une spécificité américaine. Après, le genre tel que on peut le définir, Backwoods noir, forcément, il est très américanisé parce que il y a beaucoup d'auteurs américains qui ont écrit dans ce genre-là. Il y a eu une reconnaissance aussi du roman noir rural en premier lieu chez les Américains, mais je pense qu'en France, on trouve des auteurs qui évoquent un petit peu les mêmes problématiques. Et encore aujourd'hui même, je me rappelle, à la fin des années 90, il y avait un film qui s'appelait Shaitan, je crois, qui était d'une qualité assez relative. Mais
oui, très relative, Pierre.
<Oui. rire> Là, on va pas vous suivre, hein, mais enfin bon, non, mais pour l'exemple, allez-y.
Qui était tout à fait emblématique de cette vision que avait une certaine partie de la population d'aujourd'hui sur les gens qui vivent à la campagne.
Ah oui,
c'était
oui.
Assez ahurissant.
Vous avez raison.
Je veux dire, c'était... Voilà, là, c'était vraiment dans le genre arriéré, démentiel, dangereux, et c'était vraiment, voilà, enfin voilà, c'était, on était dans un espèce de délivrance sous acide, complètement halluciné, version hip-hop banlieusée, mais c'était, voilà.
Eric, vous allez faire peur à nos éditeurs. Dis calme.
On est vraiment dans cette vision-là, hyper négative de la ruralité, donc oui. Je pense pas que ça soit une spécificité américaine.
Oui, malgré tout, il y a une profusion.
Une dernière question, allez-y, passe.
Ah, c'est une dernière.
Oui,
il y a quand même une profusion côté américain qui est là. Le livre dont vous parliez de Marcel Aimé et que je recommande à tous les auditeurs, c'est La Table aux Crevés, qui en plus a été édité qui a été publié par Marcel Aimé en 1929. Et qui montre que effectivement le genre Backwood finalement a aussi une permanence en France. Et ce livre est vraiment formidable.
Est-ce que les auteurs français c'est une influence qu'ils ont eue des auteurs américains ou alors c'est vraiment une voie qu'ils ont pris eux de leur côté?
Moi, je pense que c'est vraiment une voie qu'ils ont pris de leur côté,
oui.
Sans d'ailleurs forcément avoir confiance d'être inscrit dans un genre particulier, et vraiment dégager de la tutelle américaine, si on peut dire dans ce cas-là. Je pense que c'est aussi parce que la France a été pendant si longtemps un pays rural avant tout, où il y a des massifs forestiers très importants encore jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'on pourrait aussi s'amuser à chercher ce genre de roman noir rural des sous-bois, aussi bien en Allemagne qu'en Scandinavie. Il est certain qu'il doit en exister. Tout ça, c'est même des survivances un peu du folklore qu'on pourrait retracer jusqu'au Moyen-Âge ou aussi longtemps qu'il y a eu...
On va pas aller jusqu'à là. Il nous reste une poignée de secondes. Je suis désolé de vous couper, Pierre Guiteau, mais je pense qu'on continuera sur une autre émission. Je vous remercie de votre participation. Je rappelle aux éditeurs que vous avez sorti un livre, Pierre Guiteau,
ah oui.
De polar, mais là, je n'ai pas le titre.
Si,
votre dernier polar, c'est quoi, Pierre Guiteau?
Beyrouth-sur-Loire.
Beyrouth-sur-Loire. Voilà. En tout cas, on mettra sur le site de la Vieille Europe toutes les références.
Et puis surtout, l'article dans Éléments qui...
Voilà. On finit, Pascal. Donc, je rappelle, c'était L'Illusion d'Obama avec John MacArthur et notre invité aussi, Jean-Philippe Imarijon, pour en finir avec la France-Amérique. Voilà, je vous dis à l'année prochaine et puis bonne année et bonne fête de Noël.